voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément s'entretient avec Fabienne Verdier. Ce soir, des voyages à la musique.
Bonjour Fabienne Verdier.
Bonjour.
Nous poursuivons notre chemin ensemble cette semaine chez vous, comme les jours précédents dans la campagne qui commence à sentir le printemps. Mmh. Et nous avons essayé hier de définir l'acte de peindre, qu'est-ce que la peinture. On avait suivi précédemment votre voyage en Chine. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer par vous suivre dans un chemin que vous avez suivi, un autre chemin, à travers la peinture. Parce que après votre grande recherche dans l'art chinois, vous êtes allé à Bruges pour vous intéresser aux peintres flamands.
Oui.
Qui vous intéressait depuis longtemps, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'était une grande passion.
Une grande passion.
Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, entre 2009 et 2013, d'être invitée par les directeurs des musées de Bruges, Manfred Selling et Til Borchert, pour essayer de faire un voyage. C'était la première fois, je crois, que le musée Groninge ouvrait ses portes à un artiste contemporain, pour réfléchir et travailler autour de ces chefs-d'œuvre du XVe siècle. C'est une grande aventure qui a dévoré presque 4 ans et demi de mon existence. Une belle rencontre aussi avec Daniel Abadie, qui était commissaire de l'exposition.
Oui, alors c'est des grands voyages. La Chine, 10 ans, et Bruges, presque 5 ans. C'est quand même une tranche de vie. Et alors, dans les musées de Bruges, moi, quand on regarde votre travail, vous vous êtes inspiré de quelques tableaux.
Oui.
Alors, il y a la Vierge au chanoine Van der Pal de Van Eyck.
Oui.
Et le triptyque de Memling.
Oui.
Saint-Luc.
Dessinant la Vierge.
Et puis le diptyque de Marmion.
Oui.
Et à partir de ces tableaux, vous faites une recherche esthétique, picturale, souvent en vous attachant à des détails de la peinture qui vous frappent particulièrement. Alors expliquez-nous, par exemple, pour la Vierge au chanoine Van der Pal de Van Eyck, qu'est-ce qui vous a frappé?
Alors, d'abord, j'ai passé beaucoup de temps autour des tableaux pour savoir pourquoi ils étaient vibrants d'un mystère qui a duré tous ces siècles et tout ce qu'ils pouvaient nous apporter. Et j'étais fascinée de voir que, dans leur apparente immobilité, ils arrivaient à nous transmettre, les peintres arrivaient à incarner quelque chose qui nous dépasse, hein, une spiritualité très très forte, hein, avec plein de symboles. Et donc j'ai voulu comprendre comment moi, avec ma génération et la culture que j'avais acquise, comment j'allais interpréter ces forces à l'œuvre qui circulaient dans ces tableaux. Et par exemple, pour la Vierge au chanoine Van der Pal, je me suis intéressée au Sedes Sapientiae, ce trône de la Vierge, qu'on appelle donc le trône de sagesse. Et les Vierges étaient représentées à l'époque souvent sur ce trône. Et j'ai senti, là, dans cette structure, dans cette architecture, comme un couloir de circulation entre le terrestre et le céleste. Et j'ai commencé à faire des dessins, à faire des œuvres sur papier, des encres, pour arriver à certains tableaux où, tout à coup, cette activité, ce dynamisme, ce symbole de la spiritualité qui anime cette Vierge, j'ai tenté de le transcrire avec mes pinceaux.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des tableaux très riches, il se passe plein de choses, c'est des tableaux qui racontent une histoire.
Oui.
Et il y a un détail qui vous frappe. Vous en saisissez,
oui.
Et à partir de là, vous créez votre propre...
Voilà. Par exemple, la figure du chanoine Van der Pal. Comment représenter cette figure de l'homme en prière dans une abstraction qui puisse être porteuse et incarner quelque chose de puissant pour celui qui va se plonger dans le tableau. Donc c'était toute une aventure. Derrière la Vierge au chanoine Van der Pal, il y a des vitraux, vous savez, avec des cercles. Ça m'a fait penser à une polyphonie. Marseille, et je me suis intéressée aux motets et à la musique du XVe siècle et aux structures musicales de l'époque. Et tout à coup, ça m'a donné l'envie, l'inspiration de créer ma propre polyphonie avec cette expérience des voix, des contre-voix et de voir si picturalement, si je montais une grande polyphonie de cercles suivant les structures du motet, est-ce que j'allais pouvoir toucher à une forme de quincophonie ou est-ce que j'allais toucher une forme d'harmonie. Et ça, c'est une jolie petite histoire, l'histoire du cercle.
Le cercle, attendez, ouais. si je peux vous interrompre, ouais. Le cercle, c'est aussi les lunettes du chanoine.
C'est aussi les lunettes du chanoine.
Parce que dans ce tableau, qui raconte beaucoup de choses, que j'ai regardé avec beaucoup d'attention, il y a un chanoine qui tient des lunettes, ce qui est un peu profane, un détail profane, parce que d'abord, on ne voit pas beaucoup de personnages à l'époque qui ont des lunettes, mm-hmm. et surtout dans les tableaux religieux. Mm-hmm. Et pourtant, lui, il tient des lunettes. Ouais. Ces lunettes, ça vous a frappé, et ça rejoint les cercles.
Oui, ça rejoint les cercles. Alors, et puis ça rejoint l'idée de regarder peut-être le monde avec un autre regard. Et alors ces cercles, comment avec mon corps et dans une dimension gigantesque, puisque ma grande polyphonie fait 9 mètres de haut, comment vivre ces voix? Et les grands maîtres zen, ce cercle parfait a toujours été dans la gestuelle du petit papier, donc en petit format. Et je voulais essayer de vivre ça avec le corps en mouvement. Et je tournais avec mon pinceau autour de... Impossible de me casser la figure dans la matière, impossible d'interpréter cette pureté de la voix au travers le cercle. J'étais presque dans l'abandon de la chose. Et puis, vous avez vu, j'ai une petite réserve d'eau à la sortie de l'atelier, là, oui. Avec des carpe koi. Et je prenais une tasse de thé, j'étais prête à abandonner l'affaire. Et tout à coup, il y a un petit étard qui saute dans l'eau et qui fait l'onde parfaite. Et quelle ne fut pas ma surprise de ce signe de la nature qui m'expliquait que j'avais qu'à me mettre au centre de mon cercle pour pouvoir lui donner vie
en le peignant.
Et là, j'ai réussi à trouver une certaine harmonie des choses, ce mouvement, et j'ai commencé pendant une année à peindre des cercles mouvement contre mouvement et à monter ma polyphonie. Voilà, donc à chaque fois, chaque petit détail, comme vous dites, a créé une inspiration et un raz-de-marée de travail avant de réinterpréter et de créer une œuvre qui puisse rentrer en dialogue avec ses maîtres flamands.
Qu'est-ce qu'il y a dans le triptyque de Memling alors qui vous a...
Là, c'est la traversée des eaux de Saint-Christophe.
Oui. Voilà.
Et donc là, ce triptyque est absolument extraordinaire. C'est un poème à la nature et à la relation de l'homme et du paysage. Et donc je suis partie dans toute une étude du brin d'herbe au mouvement de l'eau, aux mutations des nuages, aux lignes de Carmant, et à cette histoire de Saint-Christophe traversant les eaux. Donc j'ai créé toute une méditation qui a duré très longtemps dans mon fond de tableau pour représenter les profondeurs de l'eau, les mouvements de l'eau. Et puis je n'ai gardé de toute cette histoire religieuse importante, j'ai voulu faire sentir la religion catholique dans l'association de mes châssis, par exemple, c'est-à-dire de manière très minimale, les joints creux de ces quatre châssis faisaient de manière presque inconsciente une croix au cœur du tableau. Et ensuite, j'ai essayé de peindre avec mon pinceau le guidon de vélo. C'est ce mouvement du voile de Saint-Christophe qui traverse les eaux.
Et alors, dans un autre tableau, je pense au portrait de Margarita.
Oui.
Le tuyauté de la coiffe.
Oui.
Vous inspire un labyrinthe.
Oui.
Alors, le labyrinthe, c'est une figure qui vous a jamais quitté, quoi.
Oui.
Et vous l'avez trouvé dans le tuyauté de la coiffe de Margarita.
Exactement. J'avais fait une reproduction de ce tableau, c'est le portrait de l'épouse de Van Eyck. Oui. Et je l'ai scotché en face de mon lit pendant un an. Et j'étais mais totalement stupéfaite, bouleversée de voir à quel point, dans son apparente immobilité, elle nous disait tellement de choses de l'âme humaine. C'est-à-dire que Vanek a réussi à, dans le rictus de son sourire, dans la sueur de sa peau, le pigment, dans la profondeur du regard. Enfin, c'est absolument hallucinant. Tous les jours, je la regardais et elle avait l'air de me dire des choses de sa vie intime, de ses frustrations de bonne femme de l'époque. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Tous les jours, elle me racontait des choses différentes. Et je me suis dit, mais comment je vais interpréter ma Margaretha pour parler de ces méandres de l'âme humaine. Et puis un matin, à force de scruter ce tableau, j'ai vu dans la coiffe de Margaretha cette pensée labyrinthique. Et je me suis dit que de la part du peintre, de parler de l'âme de son épouse par cette pensée labyrinthique, il n'y avait rien de plus beau. Donc j'ai commencé un nouveau grand chantier en travaillant sur ma Margaretha et en essayant de traverser l'espace de ma toile dans cette pensée labyrinthique qui a été un jeu passionnant.
Voilà, donc vous appropriez ces tableaux, vous en saisissez ce qui vous paraît être l'essentiel, et à partir d'un détail, vous construisez votre propre œuvre.
Voilà, et puis j'invite le public à revisiter tout ça et à prendre plaisir.
Parfois, ce sont des détails, la ceinture de Saint-Luc, oui. La ceinture noire sur une robe rouge.
Oui, ça c'était passionnant, c'est le tableau de Van der Weyden.
Oui. Il y a Saint-Luc avec une...
Saint-Luc est en train de dessiner la Vierge, et puis derrière, il y a les deux petits personnages qui contemplent l'infini du paysage. Et alors, cet infini du paysage est figuratif dans la grande tradition des lois de la perspective, tout ça. Et je me suis dit, mais comment je vais, moi, représenter ce regard sur l'infini du paysage à notre époque, hein. Et je vois cette ceinture de Saint-Luc qui est comme un trait noir avec son petit matériel pour écrire et dessiner la Vierge. Et ça m'a rappelé toutes ces années à répéter cet unique trait de pinceau et cette matrice qui est la matrice de mon travail, de cette énergie du trait de peinture. Et je me suis rappelé que j'avais été surprise à plusieurs reprises que dans le tracé de ce trait de peinture, il y avait des blancs volants, il y a un arraché de matière, et que si on se plonge dans la fractale, qu'on plonge dans cette matière, on a comme l'infini du paysage qui surgit, les fractales de Mandelbrot, comme des côtes de Bretagne. Et donc j'ai fait une installation avec la ceinture de Saint-Luc dans ces différentes variations de ceinture où on a une toute nouvelle approche de l'infini du paysage au cœur de l'énergie de la matière.
Source d'inspiration majeure, lien avec la musique aussi.
Je suis très très touchée que vous ayez trouvé ce quatuor à cordes, le quatuor à quilones d'Henri Dutilleux. Très très beau morceau qui s'appelle Ainsi la nuit.
Ainsi la nuit d'Henri Dutilleux.
Voilà.
Pourquoi on a choisi
cette Eh bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce morceau quand j'étais invitée à la chapelle de la Visitation par Bernard Faucroll et l'Académie du Festival de Musique d'Aix. Ils m'ont invité suite à tout le travail que j'avais fait en 2014 à la Juilliard School de New York pour essayer de continuer à explorer ce que les quatuors à cordes pouvaient apporter à la peinture et comment dans ma gestuelle d'accroche de sonorité picturale, je pouvais enrichir considérablement mon écriture.
Vous avez fait le lien entre la peinture flamande et la musique.
Oui.
Mais vous avez écrit aussi « Ma peinture est d'essence musicale ».
Oui, je le crois.
Alors, que voulez-vous dire par là? Parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup en Chine, ça ne vous intéressait pas trop, la musique et l'art chinois?
Mais c'est-à-dire que plus j'avançais, plus j'étais intéressée par cette écriture spontanée de la vie, cette abstraction qui nous chante le dynamisme de la nature et des forces à l'œuvre que nous avons en nous. Et donc finalement, l'expression poétique de la musique est très proche de ce que je cherche à dire dans ces instantanés, cette expression vitaliste des choses en constante mutation. Enfin, ce que je cherchais en peinture de ces mouvements, de ce rythme, des battements d'ailes du papillon, les structures musicales nous chantent aussi cette mutation continuée d'événements qui déclenchent en nous et dans l'imaginaire collectif des émotions très fortes. Et je sens que le peintre a beaucoup à apprendre avec les musiciens, d'abord parce que ce sont des êtres modestes qui sont en totale dévotion au jeu musical et à ce qu'il peut déclencher comme émotion. Et en plus, dans la gestuelle même de captation, quand j'écoute, par exemple, Ainsi la nuit, que j'entends cette fluidité de différents mouvements, de temps suspendu, de miroirs d'espace, de structures flottantes qui se déploient, les pizzicato, les contrepoints, tout ça chante dans mon esprit. Tout à coup, j'ai des visions, ça met en mouvement mon inspiration, mon imaginaire, et j'ai des visions qui surgissent et que je tente de peindre.
Je suis pénétré par la vibration, dites-vous.
Ben oui, j'ose pas trop le dire, mais oui, c'est vrai.
si, je l'ai pas inventé, je l'ai lu quelque part. Vous étiez pénétré par la vibration, donc ça veut dire que ça produit effectivement des effets, la musique produit des effets en vous, comme la contemplation de la peinture d'autrui.
Je pense que peindre, c'est entendre par l'imagination.
Oui.
Le son provoque des visions, et chez moi, dans toutes les fibres de l'être, c'est incroyable.
Oui, oui.
D'ailleurs, quand je n'ai pas d'inspiration, parce qu'il y a des matins où je n'ai pas d'inspiration, ça n'arrive pas, eh bien, j'ai créé un petit rituel très, très curieux. Je mets Mozart. Alors ça énerve mon mari qui me dit « ça y est, c'est son quart d'heure de folie ». Donc je mets Mozart, j'enferme toutes les portes de l'atelier, et j'essaye de chanter, j'essaye de mettre en mouvement, de positionner ma voix sur celle de Mozart, Così fan tutte, ou je ne sais pas. Enfin, et c'est incroyable, ce sont des harmonies qui tout à coup mettent en mouvement tout votre corps, toute une dynamique intérieure, et en cherchant la voix, je sais que quand tout à coup je la trouve, tout à coup j'arrive à la placer, et tout à coup j'arrive à la chanter, je suis prête pour prendre le pinceau. Alors, au surgissement, justement.
Le surgissement. Il y a deux expériences que vous avez faites qui ont été très fortes. Il y a celle de la Juilliard School à New York en 2017.
Oui, c'était très, très impressionnant. J'ai eu la chance d'être invitée pour créer un premier laboratoire, je crois qu'il n'y en a plus eu depuis, invitée par Bruce Kovner, qui collectionnait ma peinture et qui est le chairman de cette école.
Qu'est-ce que c'est cette école, la Juilliard School?
C'est une des plus grandes écoles de musique au monde, incroyable. Mmh. J'avais proposé d'explorer justement cette captation simultanée, spontanée de la ligne sonore et de la ligne peinte. Donc ça a profondément dérangé au départ tous les grands professeurs, parce que là-bas il y avait évidemment tous les très grands musiciens. J'ai été au masterclass de William Christie quand il préparait l'oratorio de Handel et la résurrection, c'était fantastique avec la musique baroque. J'ai participé au masterclass aussi de Kenny Barons, c'est un des plus grands pianistes de jazz.
Et comment ça se passait avec la peinture? Comment vous étiez?
Eh bien, j'avais un atelier et j'allais travailler avec eux.
Vous étiez avec les musiciens?
Et j'étais avec les musiciens.
Et vous installiez des tables?
J'installais des tables.
Et là, vous commenciez à peindre avec des caméras en dessous?
Avec des caméras en dessous, oui.
Oui, c'était compliqué. Donc, on avait à la fois
de... Bon, ils savaient que c'était l'idée du laboratoire et de la rencontre.
Oui.
Par exemple, avec le jazz improvisation de Kenny Barron, C'était fantastique. Il y avait les cinq musiciens, le saxo, le pianiste, le batteur. Je ne savais pas comment m'en sortir. Comment, en tant que peintre, sortir de sa solitude de travail et de rentrer en dialogue avec les musiciens. Donc c'était très dérangeant pour tout le monde de quitter ses habitudes de travail. Et là, j'ai appris des choses extraordinaires dans l'improvisation. Kenny me disait, mais vous n'avez qu'à reprendre vos crayons de couleur comme quand vous étiez petite, et sur votre table, vous allez rythmer tout en dessinant. On va entendre, nous, en tant que musiciens, on va entendre le rythme.
Le rythme du crayon.
Du stylo, voilà.
Du stylo sur la table, comme on l'entend.
Voilà. Et ensuite, on s'est amusé, on a décidé de codes. Donc, si vous utilisez votre crayon jaune, vous serez en dialogue avec le saxo. Si vous utilisez votre crayon bleu, vous serez en dialogue. Voilà.
C'est des sortes de performances, en fait.
De performances, oui. Le directeur du département de jazz improvisation m'a dit, mais vous n'avez pas idée comme ça leur a ouvert des nouveaux territoires d'exploration. Parce que finalement, en jazz, on répète aussi beaucoup les structures acquises des grands maîtres du jazz. Et c'est très difficile d'inventer. Et en regardant sur un grand écran, en immersion, les musiciens voyaient la dynamique de mon trait, hein, et tout à coup, ça les inspirait eux-mêmes pour aller explorer de nouveaux territoires.
C'était un échange entre la peinture et la musique.
Voilà.
C'est un travail expérimental.
Oui, mais c'était.
Mais qui a produit des œuvres après, si vous avez poursuivi.
Je n'arrête pas. D'ailleurs, Ainsi la nuit. J'étais tellement bouleversée d'être entrée dans cette pièce qu'ensuite je me suis enfermée pendant 2 ans et j'ai dû peindre 20 nuits, 20 constellations.
Justement. 2 ans après l'écoute de Dutilleux, Ainsi la nuit.
Oui, oui. Alors, j'avais présenté.
Vous aimez le temps long, hein, quand on commence quelque chose.
Écoutez, plus on creuse, plus on trouve. C'est terrible. Oui. Ça devient un geyser.
Oui. Il y a John Cage aussi, sur lequel vous avez travaillé. Enfin, il y a eu beaucoup de correspondances entre différents peintres et la musique. Et alors après ça, il y a eu Bernard Faucroul. Alors Bernard Faucroul, rappelons qu'il était directeur du Festival d'Aix pendant longtemps, lui-même organiste.
Une grande amitié est née. D'ailleurs, c'est lui qui est venu m'embêter.
C'est lui qui est venu vous
chercher.
C'est lui
qui m'a dit, il faut pas en rester là. Vos expériences à la Julia School étaient vraiment intéressantes. Il faut continuer à explorer. Parce que ça n'a l'air de rien, mais de quitter l'atelier et d'investir dans toutes ces recherches fondamentales sans budget, c'est pas facile, hein. Mais je ne regrette rien, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris.
À Aix-en-Provence, vous êtes retrouvé à la fois dans la musique avec le Festival d'Aix et puis aussi, évidemment, avec la Montagne Sainte-Victoire et Cézanne.
Ça fait beaucoup d'émotions, vous imaginez.
Oui, ça fait beaucoup d'émotions et beaucoup de circulation entre des terrains différents.
Oui.
Parce que là, on a à la fois la nature, l'histoire de la peinture avec Cézanne, évidemment, la Montagne Sainte-Victoire, et puis la musique avec celle produite et mise en scène par Bernard Faucroul.
Oui. Oui, mon cœur a failli éclater, là. C'était beaucoup.
Trop.
Et puis la rencontre avec tous ces hommes, vous savez que le peintre est quand même très solitaire. Donc tout à coup, il y avait des circulations et des échanges d'inspiration de toutes parts. C'était magnifique.
Oui.
Il m'est arrivé aussi une belle histoire avec Bernard Faucroul. C'est quand il m'a demandé de peindre le bois de son clavecin. Son rêve était de créer, de faire fabriquer un clavecin sur le modèle du Rückers qui est au musée de Colmar. Et j'ai à nouveau été totalement passionnée par cette forme du couvercle en bois de poirier, qui n'était pas la forme d'un châssis de bois normal. Et surtout l'idée que le tableau reste caché à l'intérieur de l'instrument, et que quand on l'ouvre, il doit non seulement inspirer le musicien qui joue, il doit inspirer le public, et il doit faire rebondir le son. Donc je suis rentrée encore dans une grande passion. J'ai créé 4 couvertes de clavecin, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'un musicien peut donner un concert avec 4 tableaux différents qui l'inspirent.
Si on vous parle des musiciens qui vous ont particulièrement inspiré, donc vous parliez tout à l'heure de Mozart.
Oui.
On a parlé du Tilleul, donc vous êtes assez éclectique.
Oui.
Et qui d'autre alors?
Là, j'avais travaillé aussi sur une pièce de Courtag, Officium Brevi, qui était absolument magnifique. J'avais travaillé aussi, ça, Bernard Foucrault me demandait aussi de rendre hommage aussi à Joseph Haydn, le père des quatuors à cordes, où là j'avais travaillé sur un petit menuet. Et j'ai tenté l'expérience de la musique et de l'esquisse. Je me suis dit, mais finalement, le peintre, on travaille toujours qu'avec une main, et les musiciens travaillent avec les deux mains. Donc j'ai commencé à suivre le menuet comme une petite danse, et à dessiner avec les deux mains en même temps. Voilà, donc à chaque fois, ce sont des expériences très...
Qu'est-ce que ça donne comme œuvre?
Ça donne des grandes esquisses de 3 mètres, j'ai tenté de danser avec mes mines de plomb sur le menuet d'Haydn.
J'ai vu aussi que vous étiez le chant de la terre de Mahler, vous avez beaucoup inspiré.
Beaucoup de choses qui m'ont inspiré, le dialogue des Carmélites, j'ai fait un tableau sur cet opéra de Francis Poulenc qui m'a totalement fasciné, et que vous avez dû voir, ce grand tableau noir avec des méandres à Aix. J'ai une passion aussi pour Glenn Gould.
Pourquoi Glenn Gould? À cause de son jeu très particulier.
Les variations Goldberg, c'est extraordinaire. Oui. Je trouve que c'est une des plus belles expériences de l'art du jeu du musicien que d'écouter la version qu'il en a fait, qui était déjà absolument virtuose et extraordinaire en 1955, et la version, l'enregistrement qu'il a fait en 81, et de voir qu'il a mis une vie à arriver à dire et à incarner une richesse d'expression de tout ce qui se passe entre les notes. Ça vaut la peine de l'écouter et de prendre le temps de voir qu'il y a le jeu, il y a la partition, et puis il y a toute cette vie intime qu'on y incarne ou pas.
On est chez vous à la campagne, comme on le sait,
oui.
Et on entend le chant des oiseaux.
Oui.
Et rien ne remplace le chant des oiseaux. D'ailleurs, ça m'a surpris que vous ne soyez pas plus intéressé, que je n'ai pas trop lu à Messiaen.
Si, c'est la prochaine étape, figurez-vous. Parce que j'ai une passion pour les oiseaux, je vis avec tous les jours. Ils sont très très présents, comme vous avez pu l'entendre dans ce jardin. Et ce sont mes compagnons de vie au quotidien, les mésanges, les citelles, la petite merlette, la corneille, l'épi. Et souvent d'ailleurs... La corneille qui est là, elle est sur le faîte de l'atelier, et quand je traverse le jardin, elle me parle. Hein. C'est totalement étonnant. Hein. Elle est là. Très impressionnant.
Oui, je suis content de savoir que Messiaen sera une prochaine étape. Je ne voyais pas comment vous pouviez y échapper.
Ah oui, je ne peux pas y échapper.
Bon, écoutez, merci beaucoup Fabien Verdier. Et à demain.
Merci, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Fabienne Verdier. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Christophe Goudin, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.